Alors attention, les prénoms des personnages dans le livre ne sont pas les vrais prénoms. Hein. J'ai simplement gardé le personnage de René Coty parce qu'il appartient un peu à l'histoire, donc je ne pouvais pas le transformer par un autre personnage, mais tous les noms des personnages de la famille ont été changés. Évidemment, dans la région où j'ai longtemps habité, où j'ai toujours en vacances, qui est le pays de Caux, la Seine-Maritime, disons, il est très présent partout parce qu'il n'y a effectivement pas de village sans l'avenue René Coty, pas de bourg sans le boulevard Coty, qui croise en général le boulevard de Gaulle. Ce qui m'agacerait plutôt, ce sont des lieux communs du genre « Ah oui, René Coty, ah oui, il est parti en 58, il s'est fait mettre à la porte par de Gaulle. » Alors c'est pas du tout ça, puisque c'est lui qui, au contraire, a beaucoup favorisé la transition harmonieuse avec de Gaulle à un moment où ça n'était pas gagné d'avance. Et donc voilà, René Coty, il était à la fois gaulliste, mais il n'avait pas beaucoup de Gaulle. C'était très très compliqué, sa position, alors que son gendre, lui, était un gaulliste fervent. Il y avait comme ça dans la France de l'époque, à travers les grandes entreprises d'État, malgré tout, une certaine compréhension entre gaullistes et communistes. Et c'est, dans ma famille, je pense au Havre, c'était assez bien incarné par mon grand-père. C'est amusant d'ailleurs parce que c'est le maire du Havre actuel que je connais, qui s'appelle Antoine Ruffnac, qui a commencé par être le suppléant de mon grand-père comme député du Havre, et qui m'expliquait que mon grand-père lui disait, puisque le Havre est une grande ville ouvrière, cher Antoine Ruffnac, vous qui sortez de l'ENA, qui êtes mon suppléant, vous serez certainement député dans quelques années, vous serez même probablement ministre, vous serez peut-être président de la République. Après tout, le Havre en a déjà donné deux, Félix Faure et René Coty. Mais il y a une chose que vous ne serez jamais, c'est maire du Havre. Et en fait, malgré tout, même les grandes citadelles communistes finissent par s'effondrer, puisque Antoine Ruffnac n'a pas été président de la République, mais est devenu bel et bien maire du Havre depuis une dizaine d'années. Mais René Coty a une nouvelle heure de gloire qui a commencé il y a à peu près 2 ans, grâce au film OSS 117, dans lequel l'agent secret ridicule, mais très drôle, joué par Jean Dujardin, distribue partout la carte postale du président Coty au cours de son enquête. Voilà. J'ai écrit auparavant des romans qui sont souvent des fantaisies, des vraies fictions. Là, j'avais envie d'écrire un livre qui soit le plus proche possible d'une partie, en tout cas de l'histoire de ma famille, telle que je l'ai vécue, puisque... il y avait dans l'histoire de cette famille cet épisode de l'Élysée dans les années 50 qui avait été assez marquant et même d'une certaine façon assez troublant. C'est pour ça que je pensais que ça valait la peine d'en faire un roman, parce que quand René Coty, donc en décembre 1953, a été élu un peu à la surprise générale président de la République, ses petites filles, dont ma mère fait partie, ses fameuses cousines, ses 9 cousines, qui avaient toutes entre 15 et 25 ans, se sont trouvés tout d'un coup, du jour au lendemain, sous les feux des projecteurs, et sont restés pendant 5 ans à la une de ce qu'on n'appelait pas encore la presse people, mais c'était un peu la même chose. Hein. Il y avait Jour de France, il y avait Radar, il y avait des quantités de magazines dont certains existent encore. Et donc, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est ça n'est pas simplement de raconter comme ça une espèce de... d'heures de gloire qui arrivent comme ça dans une famille, c'est au contraire le fait qu'elles ont plutôt mal vécu ce moment un peu extraordinaire, et qu'elles ont ensuite passé une partie de leur vie à vouloir un petit peu oublier, éloigner d'elles cet épisode de l'Élysée, comme si elles avaient été empêchées de mener une vie normale. Alors, c'est des femmes qui ont eu 20 ans en 1955-1960 et qui avaient ce besoin d'entrer dans la modernité d'une certaine façon. Dans ma génération, justement, comme toutes ces cousines qui étaient nos mères ne voulaient surtout pas qu'on mette en avant le fait que notre arrière-grand-père était président de la République, surtout moi, pour moi qui vivais au Havre, bon, c'était pas comme à Paris où tout ça était plus noyé dans la masse, mais ça restait la famille du président, mais on ne devait surtout pas en tirer avantage d'aucune façon que ce soit. Donc il ne fallait pas le dire, en fait, surtout, c'était la règle, c'était qu'il ne fallait surtout pas le dire, il fallait être très discret sur le sujet. Si on nous en parlait, il fallait avoir l'air fier, mais tout de suite esquiver et passer à autre chose. Et donc une de mes cousines, qui avait le goût des jeux de mots et des anagrammes, quand elle parlait du grand-père Coty, disait le grand picotaire, ce qui était très joli parce que ça fait un peu nom d'animal exotique. Et donc voilà, il y avait le grand picotaire qui était en fait le mot de code entre cousins pour parler du grand-père Coty. Si vous voulez, j'explique comme ça, c'est-à-dire que les cousines, justement, quand leur grand-père était donc à l'Élysée, il était tellement l'homme important de la famille, l'homme solennel, l'incarnation de la rigueur et de la droiture, qu'elles avaient besoin de se défouler. Et donc, elles avaient un côté un peu gamine quand elles se retrouvaient entre elles. Et effectivement, tout simplement, quand la jeune reine Elisabeth II est venue en visite officielle à Paris, et qu'en fait, elle a résidé à l'Élysée pour son premier voyage officiel en France, ma mère et sa sœur ont profité de la sortie d'Elisabeth II pour aller fouiller dans la garde-robe de la reine. Et tout ce qui les a le plus amusé au fond de cette visite, c'est d'avoir trouvé les petites culottes brodées aux initiales d'Elisabeth dans un tiroir à l'Élysée. Voilà, c'est tout simplement. On peut dire qu'il y a un premier fil conducteur qui est l'histoire de ma famille et la façon dont je me suis formé dans cette famille. Il y a un deuxième fil conducteur qui est la transformation de la société française et de la bourgeoisie pendant une cinquantaine d'années. Et puis il y a un troisième fil conducteur qui est la plage, la mer, le bain et tous ces plaisirs-là. Ce qui m'intéressait dans le décor d'Étretat, c'est que c'est vraiment la station bourgeoise de la fin du 19e siècle. Et moi, c'est une époque qui m'a toujours un peu fasciné, cette fin du 19e siècle parisien, avec la naissance de l'impressionnisme, avec l'art nouveau, avec les débuts de la musique moderne, Offenbach, Fauré, Saint-Saëns, etc. Tout ce que j'aime dans l'art, au fond, se rattache souvent à cette époque-là, y compris les écrivains, puisque moi, dans mes dieux littéraires, si je peux dire, il y a quand même Guy de Maupassant qui a lui-même grandi à Étretat en étant à moitié d'une famille parisienne. C'était devenu quasiment le jardin de Paris. C'est-à-dire toutes ces stations du pays de Caux entre le Havre et Dieppe n'étaient quasiment peuplées que de Parisiens qui faisaient construire des villas extravagantes. Et donc on avait une espèce de migration continue entre le milieu artistique parisien et la côte normande qui, moi, m'a toujours un peu fait rêver. J'adore les bains de mer, j'adore les plages, parce que c'est un lieu où l'humanité est un peu réduite à sa plus simple expression, en maillot de bain, et c'est un lieu d'observation que j'adore sur la vie, sur les comportements. Donc dans ce livre, il y a beaucoup de petits croquis, un peu à la Eugène Boudin, vous savez, quand il peignait les baigneurs sur la plage de Trouville. Moi, j'essaie de faire des scènes sur la plage d'Étretat, de reconstituer le décor, de montrer comment il se transforme aussi au fil du temps. Et il y avait donc sur les plages d'Étretat toujours cet alignement de cabines au sommet de la pente de galets. Et puis devant les cabines, les périssoirs, ces petits bateaux allongés qu'on faisait glisser sur les galets pour partir pagayer en mer et aller sur les plages voisines qui ne sont accessibles que par bateau. Et c'est simplement quand je suis monté à Paris, comme beaucoup d'autres, faire mes études, que tout d'un coup j'ai découvert, dans une espèce d'illumination, que la côte normande était merveilleuse, que j'adorais les bains d'eau froide, que l'eau d'Étretat était claire, transparente et idéale pour le bain, parce que il n'y a pas la grande barre de l'Atlantique à Étretat. Quand c'est déchaîné, c'est très dangereux, mais quand ça se calme, c'est comme une grande piscine merveilleuse, toute claire, qui ne dépasse jamais les 18 degrés, je vous rassure. Ici non plus, voilà, c'est pareil. Mais là, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, si vous voulez, c'était de confronter un décor qui change très peu, qui est celui de la plage d'Étretat, entre ces deux arches de falaise, avec ces galets, ces villas, tout ça est presque immuable. Et avec les bains de mer, avec les plaisirs de la mer, j'ai voulu montrer cette dimension un peu éternelle du rapport de l'homme avec la nature, au moins comme ça, au cours de l'été et des vacances, et confronter ça en même temps à un monde qui change, à une société qui change, à une bourgeoisie qui change. Et donc j'essaie de montrer qu'au fond, derrière cette bourgeoisie qu'on a tellement critiquée, il y a un art de vivre, et que d'ailleurs, la bourgeoisie est d'autant plus intéressante que c'est elle-même qui s'est le plus critiquée. C'est une classe sociale qui a inventé l'autodénigrement d'une certaine façon. C'est un peu la provocation, ce livre, parce que je suis pas du tout je n'idolâtre pas l'ancienne bourgeoisie. Je vois tous ses défauts. Mais en même temps, ça m'amuse d'aller à contre-courant. J'aime bien faire ça. Ben, c'est vrai, je peux avoir cette tournure d'esprit un peu contradictoire. Mais c'est vrai que oui, j'ai plutôt un tempérament nostalgique. Et je ne m'en cache pas. Et après tout, il me semble que chez les écrivains, chez les poètes, chez les romanciers, la nostalgie est quelque chose d'assez répandu. Il doit y avoir un rapport, peut-être même, entre le désir d'écrire, la volonté de fixer des moments du temps passé ou du présent qui est en train de nous échapper, et une certaine propension à la nostalgie. À mon avis, la nostalgie est un sentiment littéraire. Et j'aime bien mélanger dans un livre des registres différents, et que chaque chapitre soit aussi comme une espèce de petite forme fermée qui se suffise à elle-même. Donc il y a effectivement il y a des scènes familiales, mais il y a aussi des réflexions sur la plage et sur les galets. Il y a des moments qui sont plutôt des espèces de petits croquis de la société ou de ses transformations, et le livre est comme ça toute une espèce d'agencement de ces passages entre eux, avec toujours un petit peu cette règle que chacun des chapitres doit pouvoir se lire presque sans avoir lu les autres. Il y a des écrivains magnifiques qui ont une prose lyrique abondante, une espèce de style qu'on admire pour lui-même, comme ça. Moi, mon idéal, c'est presque que le style s'efface, qu'il n'ait l'air de rien et qu'il disparaisse un petit peu sous ce qu'il est en train de nous raconter. Oui.